C'est Décibel, toute l'actualité musicale, avec ce soir, waouh!
Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps.
Le grand Serge Lama aura 83 ans demain. Et demain, on est mercredi, jour de sortie au cinéma, et bien un grand film documentaire sort sur Serge Lama, qui s'appelle tout simplement Serge Lama, le film documentaire réalisé par David Serrero. Alors on a eu la chance inouïe de rencontrer Serge Lama dans des conditions pas banales, hein, puisque chez lui on a rencontré sa femme, son chat, sa vie, son œuvre. Décibel chez Serge Lama. C'est rien que pour vous, c'est uniquement sur votre radio ici. Nous sommes la seule radio à qui Serge Lama a accepté de parler de ce film dans lequel il se livre comme jamais. Alors les amis, je vous emmène avec moi, on sort du studio, on y va. On en rêvait, ça y est, c'est fait, Décibel hors les murs, quelque part dans Paris, chez Serge Lama. Bonsoir Serge.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous accueillir.
Ben, je vous en prie.
Je vois qu'il y a un sacré gang autour de vous. Il y a Louana qui est là, que vous découvrirez dans le film, on en parlera tout à l'heure, c'est votre épouse. Il y a David Serrero, bonsoir.
Bonsoir, je suis l'autre épouse.
Dans vos rêves, David.
J'aurais adoré. Mais...
Vous êtes le réalisateur d'un film qui sort demain, un grand film documentaire sur vous, Serge Lama.
Oui, c'est un biopic. Il a réussi, David, à faire que ce soit. C'était une interview poussée très loin, qui l'a tiré au biopic. Il l'a amené jusque. Il a accouché au-delà des mots, avec les images, à faire des choses formidables. Et ça a été un moment où je suis sorti de cette interview qui a duré 4 heures, un peu fatigué, mais je crois que j'ai jamais dit autant de choses depuis que je suis interviewé, depuis mes débuts.
Je veux bien le croire, parce qu'effectivement, dans ce film, de manière très naturelle, j'ai l'impression, vous revenez comme ça sur le grand film de votre vie, votre carrière, et j'imagine que vous avez souvent été sollicité pour ce genre de projet. Mon petit doigt me dit qu'avec grâce, mais fermeté, vous avez souvent refusé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté le projet de David ?
Mais parce qu'on a fait l'interview d'abord, et que je savais qu'on avait... un matériel formidable, et que à partir de ce matériel, avec le caractère que j'ai deviné chez David dès le premier jour, le professionnalisme, j'ai su que ça serait un beau projet de le faire comme ça.
David, vous y avez cru, vous, au moment de le demander, au moment de dire à Serge Lama, je ferais bien un film.
Déjà, je prends une seconde pour absorber ce qu'il vient de dire.
Oui.
Parce que c'est quand même un monument, ce grand monsieur. Effectivement, c'est quand vous avez une chance de parler à un grand maître. Vous devez d'être à son écoute, et surtout, j'ai un grand respect pour son CV. Pour tout ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui fait partie du patrimoine, qui fait partie de l'histoire française et l'histoire de France. Et bien entendu, quand vous avez une opportunité comme ça, quand vous avez déjà un grand contact, et je rends hommage vraiment à l'épouse de Serge, Louana, où j'avais une petite alarme où tous les 2 jours je la relançais et qui finalement a capitulé, a cédé. Et c'est vrai que Serge, un jour, je pense que c'était, vous savez, c'était le bon moment, la bonne période, le bon projet, la bonne personne. Et il a été dans le film, vous le verrez comme vous le verrez jamais.
La sortie cinéma, c'est pour demain. Est-ce que il est déjà prévu aussi une sortie télévisuelle ou sur une plateforme ? Parce que là, évidemment, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent partout en France ont envie de voir le film.
Bien. Bien sûr, merci d'en parler. En fait, donc c'est à partir de demain, parce qu'il y a des dates même jusqu'en mars, etc.
Ah oui, d'accord, c'est une sortie
Sortie un peu différente, un peu événementielle, ils disent maintenant. Quand il y a des concerts au cinéma, ils disent c'est pas tel jour, c'est un peu une sortie événementielle, un petit peu comme ça. Oui, bien sûr, j'espère qu'il sera sur des chaînes de télé, mais sur des plateformes, je sais pas si on peut dire les noms, mais...
Allez-y.
Amazon, etc., Canal+, voilà.
Dites Netflix, on sait jamais, ils vont peut-être nous donner des sous.
J'aurais bien aimé un beau petit Netflix. Mais effectivement, plusieurs personnes, parce qu'il y a un tel public qui va des jeunes de 20 ans, il y a des rappeurs qui me disent waouh, tu fais un film sur Serge Lama, mais et qui me disent qu'ils ont écouté vraiment les musiques de Serge, qui ont grandi en écoutant les musiques de Serge, parce que justement on croit que le rap c'est l'opposé de la chanson française, alors en fait c'est l'inverse,
c'est la continuité,
c'est une évolution, c'est comme de Picasso et de Rembrandt avant quoi, c'est une évolution de cet art.
Waouh. Vous aimez passionnément le travail de Serge Lama. Je vous sens évidemment fan dans ce que le mot a de plus joli, hein, de plus tendre. Est-ce que c'était une difficulté pour vous de l'interviewer, parfois à la dure, parce que vous lui faites parler de moments de sa vie terribles, des drames, des deuils, des pertes, etc. Vous l'adorez? Vous aviez pas envie de lui faire de peine, mais vous aviez envie d'être complet. Comment vous avez fait?
C'est une très bonne question. Mais en fait, c'est tout l'art, en fait, de l'interview, en fait. Vous connaissez ça très bien. Vous faites ça magnifiquement bien.
Merci. En fait,
parce que j'approche pas Serge comme un, j'irais comme un journaliste, avec tout le respect que j'ai pour les journalistes, mais je l'approche vraiment comme un réalisateur qui écrit le film de sa vie au moment où il parle. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il va dire. Ça, la beauté du documentaire, moi qui viens du théâtre, c'est ce qu'il y a de plus théâtral, c'est dans le documentaire, parce que tout est spontané. Et Serge qui a fait du théâtre, Sacha Guitry, qui a toujours été un homme d'une fougue théâtrale, de grands mouvements, de grands gestes.
Et le sens de la formule,
que voilà, on a envie d'écrire sa vie. Et en fait, Serge, aujourd'hui, c'est le résultat d'une équation. Et on peut pas comprendre le résultat de l'équation si on n'a pas compris tous les chiffres. C'est pour ça que je pose un moment dans le film, est-ce que il aurait eu la carrière qu'il a eue s'il n'avait pas eu cet accident?
On parle de l'accident de l'été 1965, voilà, sur la route, en tournée, où malheureusement votre compagne est décédée, le frère d'Enrico Macias, qui était le chauffeur de la voiture, est décédé également. C'est un souvenir évidemment terrible, mais ce qui est fou dans le film, c'est qu'on réalise à quel point de cette situation si noire, si désespérée, naît quelque chose de magnifique, notamment un concert de soutien. Je n'avais pas connaissance de ce concert.
Oui, c'est hallucinant, à l'Olympia. Hallucinant, parce que toutes les stars de l'époque se sont venues faire un concert pour moi à l'Olympia, ce qui m'a permis, j'avais pas les moyens de survivre pendant,
parce que ça coûte cher,
toutes les opérations que j'ai eues, à chaque fois, j'ai eu 15 ou 16 opérations, c'est lourd, hein, il faut faire venir des ambulanciers qui me descendaient, enfin, ça a été une période très dure et grâce à ce mouvement de gens que je ne connaissais pas.
On va les citer, Serge. Il y avait Brassens, alors que vous connaissiez.
Brassens, oui.
Et donc Enrico Macias, Charles Aznavour, Barbara, Marcel Amon, l'Olympia.
Ben oui, ben tout.
Complet.
Oui, c'est une affiche qu'à l'époque, on n'aurait pas pu les mettre ensemble.
Ben c'est ça.
Tellement ça aurait été cher.
Ouais.
C'est extraordinaire. Et malheureusement, j'ai pas vu le concert. Et ça m'a fait de la peine. Mais ils sont tous arrivés
dans
le petit appartement de mon ami Marcel Gobineau, qui était mon ami, mon maître, pour une chanson que vous connaissez peut-être, et qui me préservait de mes parents, en quelque sorte, dont il savait que si j'allais chez mes parents, ben c'était la cata pour moi, c'était la fin, parce que je serais mort, parce que j'avais quitté ma famille, et c'était pas pour y revenir, et ça aurait été un drame pour moi de revenir. J'ai été 15 jours, et ma mère, au bout de 15 jours, en avait marre, elle était très contente que je reparte chez Marcel.
Et pour vous, c'était aussi le premier pas vers la guérison, puis le fait de rechanter. Oui, oui. Ça, c'était important.
C'était une grosse bagarre, parce que j'avais quand même de gros handicaps. Mais la volonté, on peut dire que la volonté fait tout quand, quand on veut. J'ai couru, j'ai marché, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pendant toute ma rééducation, puis dans Paris, j'ai mettais les bouchées doubles, je montais en haut de l'Olympia pour chanter dans un tout petit cabaret avec Yves Gilbert. Enfin, j'ai fait toutes des choses insensées. Si je vous racontais, ça serait trop long. Et donc voilà, c'est ce qui, et puis l'enthousiasme, le désir, l'envie que j'avais, la volonté que j'avais, une volonté qui s'est démultiplié avec l'accident, parce que là, d'où des interviews d'ailleurs après l'accident, qui étaient parfois où je disais je vais devenir vedette, je vais devenir star, je vais devenir où on aurait pu me prendre pour un prétentiaire, alors que je, non, je voulais, et j'avais tellement besoin de le dire pour me persuader moi-même que j'allais y arriver, et j'y suis arrivé.
Guy est arrivé, ouais. Et c'est vrai que ce film, par moment, se regarde vraiment comme un film d'aventure, oui, où on est du côté du héros, on se dit, mais si, il va s'en sortir, ça va aller. Et ça, voilà, c'est évidemment, ça fait des émotions. Bien joué là-dessus,
merci
David.
Beaucoup, hein, merci.
Vraiment.
Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leur frisson. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau, elles m'ont même beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr. J'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. En aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure, parce que je t'aime, t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore.
« sublime chanson de Serge Lama, d'Aventure en Aventure. C'est aussi le titre de son album sorti en 1968, 3 ans donc après le terrible accident dont nous parlions avec lui et avec David Serrero, réalisateur de Serge Lama, le film documentaire qui sort demain à l'occasion de l'anniversaire de Serge Lama, de ses 83 ans. Allez, on retourne dans le salon de Serge Lama. Vous allez voir, on va avoir de la visite. Serge Lama, à qui forcément j'avais envie de parler de son public, son grand amour. Le public, on s'en rend bien compte dans le film de David. Serge, vous le dites, c'est pour eux que vous avez fait, que vous faites, que vous ferez absolument tout. Donc, ils n'ont pas la parole, mais ils sont là, vraiment, dans le film. Est-ce que vous pouvez tenter de m'expliquer votre relation quasi amoureuse avec le public ?
Bah, c'est une passion, vous savez, c'est comme une passion dans la vie. J'ai la passion des gens, déjà, j'aime les gens. Et j'ai la passion de ce public qui est pas obligé de venir. Tous les soirs, on est étonné qu'ils soient là parce que ils sont pas obligés, ils payent les places, et c'est dur pour eux. Et ils viennent. Ils viennent, et là, vous avez tout à leur donner et tout à leur apporter. C'est mystérieux, cette sorte d'entente qu'il y a entre celui qui fait et ceux qui écoutent et qui entendent et qui applaudissent. C'est une sorte de mystère très grand, mais qui est magnifique.
J'ai l'impression, en vous écoutant là et en me rappelant de vos paroles dans le film, presque vous aimez plus le public que la musique.
Je croyais que vous alliez dire que le métier.
Oui, alors que le métier, ça je m'en doute un peu.
Alors oui, que le métier, oui.
Ouais, et que mais, la musique.
Et que la musique, c'est-à-dire...
Une chanson. Est-ce que vous aimez plus parlons de satisfaction.
J'aime écrire. Je suis jamais satisfait, forcément, comme tous les chanteurs vous le diront, ouais, de ce que j'écris. Mais à l'arrivée, quand je donne au public, c'est le public qui décide. Et donc, c'est le public qui gagne la partie à tous les niveaux. Pour moi, à mes yeux, sans le public, tous autant qu'on est, et tous les gens d'ailleurs qui sont dans ce docu, sans le public, ils seraient rien. C'est le public qui décide de même un homme de télévision comme Nikos, ouais, que même lui, c'est le public qui a fait ce qu'il est, et on doit tous être reconnaissants à ces braves gens qui viennent vous applaudir. Ou vous regardez à la télévision, et c'est un mystère extrêmement grand que tout ça.
Je trouve que, si je peux pas juste ajouter David, un mot par rapport, oui, à ça, c'est que je trouve que les musiques de Serge, les paroles de Serge, c'est pour moi une plateforme pour montrer tout son amour. Je parle en mon nom, hein, je parle pas au nom de Serge, mais je trouve que c'est une plateforme de l'amour qu'il a envers le public. Parce que la façon avec laquelle il a démarré son métier n'a rien à voir avec les chanteurs d'aujourd'hui. C'est justement, les chanteurs d'aujourd'hui n'ont pas l'art et le travail avec le
cabaret, le ou ces choses-là.
Il a démarré, ouais, au cabaret. Vous avez, ouais, comme il dit Patrick Sébastien, 5 personnes qui t'écoutent pas.
C'est et ça. Il dit ça dans le film, c'est très vrai.
Il a appris à monter, à descendre, à revenir. On en parlait juste avant que vous arriviez, à des tunnels. Ouais. Donc,
à conquérir. Ouais, en permanence, parce que sur une carrière aussi longue que la mienne, rien n'est jamais acquis. C'est toujours une conquête permanente. C'est-à-dire que vous avez des zones plates, des zones formidables, des zones plates, des zones formidables. Et une carrière de 60 et quelques années comme la mienne, c'est comme ça. Mais néanmoins, je faisais quand même des 250 et des 300 dates par an. Alors, le public, je le rencontrer, et c'est comme ça que je l'ai conquis et conservé, parce que il venait me voir et puis du coup ils achetaient mes disques.
Et puis, ils en avaient aussi pour leur argent quand ils allaient vous voir sur scène. Il y a le témoignage, alors son nom m'échappe, mais vous allez le retrouver, de votre accordéoniste sur la...
Serge Thomassy,
voilà, qui dit qu'il a fait 500 concerts avec vous, 500 fois la même chanson, jamais la même version.
Oui, ben oui.
Vous avez fait ça toute votre carrière, réinventer vos titres, vous renouvelez chaque soir, il n'y a pas une once de paresse en vous.
Non, ben c'est ma nature. Puis vous savez, le public est différent tous les soirs et il faut que nous soyons à l'aune de ce qu'on ressent du public. Le public n'est pas pareil un soir sur l'autre et vous êtes différent grâce et à cause du public. Donc oui, puis le bonheur de il y a toujours deux ou trois façons de chanter une chanson. Ouais. Il faut selon le public, ben vous chantez comme ça ce soir-là, puis comme ça un autre soir, et puis encore une autre façon, un autre soir. Alors, tout ça, ça se travaille, ça c'est à l'intérieur de vous, et c'est l'instinct. Moi, je suis un mec d'instinct. Moi, j'ai toujours travaillé avec l'instinct, un truc qui me pousse, quoi.
Ouais, c'est de la chanson artisanale, pas industrielle.
C'est ça.
C'est ça, hein. Eh oui, mais ça s'entend.
C'est du made in home.
Fait à la maison.
Cher Serge, dans ce film, il y a des artistes qui viennent parler de vous, des amis. Il y a Michel Drucker, il y a Carla Bruni, et il y a Lara Fabian qui pose une très bonne question. Lara se demande si vous avez conscience de l'influence immense que vous avez sur la chanson française dans tout ce qu'elle a de plus divers. Est-ce que vous avez conscience de ça ?
Alors je vous réponds tout de suite non. J'ai pas conscience. Là, je vois que le métier m'a rendu plusieurs hommages extraordinaires depuis 6 mois. Alors j'ai conscience donc qu'il a dû se passer quelque chose, mais j'ai du mal moi à avoir conscience de ça, et heureusement, parce que sinon ça serait à mon âge c'est pas trop grave, mais ça serait quand même un peu catastrophique
d'avoir le melon oui maintenant, en même temps ce serait
oui,
dommage,
ça serait un peu tard
oui,
quoi,
oui,
pour
oui.
avoir le melon oui. oui oui.
Ce serait dommage, mais Lara Fabian et tout un tas d'autres artistes vous citent systématiquement, et c'est vrai ce que David disait, vos paroles, votre écriture, forcément ça parle à des rappeurs. Dans le documentaire, on vous entend dire que vous êtes irrémédiablement auteur. C'est ça votre premier métier ?
Oui, c'est ça mon premier métier. Je suis un auteur classique. Je suis un auteur qui j'ai refusé de me laisser mener par la mode de l'époque, hein, qui était au rock, à tout ça. J'ai dit moi, j'ai pas ma place là-dedans, je peux pas. Alors j'ai continué à labourer mon champ de vieux paysans, du texte français, de la chanson française, de la beauté des mots, de la résonance, des sujets aussi qui étaient parfois borderline, mais c'était aussi dans mon tempérament, parce que j'étais comme ça.
Et puis c'est le rôle des poètes, hein.
Et
de
donc
parler de ça.
Voilà, donc je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu dans l'écriture à mon niveau, quoi.
Bon bah on a vérifié, non, Serge Lama n'a pas le melon. Attendez, je tente un truc. Serge Lama, 60 ans de carrière, 25 millions d'albums vendus, 1 million de spectateurs pour votre comédie musicale Napoléon. Toujours pas le melon ?
Non, j'ai eu un peu le melon pendant Napoléon, c'est parce que ça a été un événement tellement incroyable que tout le monde venait me chercher, tout le monde venait, jamais personne n'était venu me chercher comme ça. Et j'ai eu un poil, ça a monté là, mais c'est redescendu très vite parce que c'est pas dans ma nature d'avoir le melon, je suis trop lucide.
C'est peut-être à cause du personnage aussi,
oui,
Napoléon
peut-être,
Bonaparte.
Oui, c'est un personnage qui est lourd à porter. Ouais. Oui, c'est pas un personnage anodin, c'est quelqu'un qui vous laisse des traces et qui vous poursuit même, je dirais. C'est quelqu'un qui vous court après. Alors voilà, c'est comme ça. Je suis passé, mais je m'en suis sorti.
J'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. mal fringué dans ma peau pas bien. J'étais bande à part et boudeur, je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre. Avec mes mains derrière le dos, j'étais furieux, j'étais fiévreux, je portais déjà mon chapeau et j'étais déjà malheureux. Napoléon et 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 Napoléon. Devant le siège de Toulon, Alodi comme au pont d'Arcole, toujours, toujours Napoléon se rappellera qu'à l'école. À l'école quand j'étais gamin, mon nom ce n'est pas bien français, j'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Napoléon, 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 Napoléon.
Serge Lama et un cœur d'enfant absolument irrésistible sur ce Napoléoné, tiré donc de Napoléon, la comédie musicale dont on parlait à l'instant avec Serge Lama. La première de cette comédie musicale a été jouée le 20 septembre 1984 à Paris au Théâtre Marigny. Elle a ensuite voyagé dans toute la France et dans le monde entier. Plus de 1000 représentations pour le Napoléon de Serge Lama. C'est lui qui signe le livret avec Jacques Rony. C'est vraiment un grand moment de sa carrière, vous l'avez entendu, mais ça ne lui a pas donné le melon. Allez, il est 20h27, merci d'avoir choisi ici. C'est chez nous, chez vous, donc, que ce soir, Serge Lama a décidé de s'exprimer, de se raconter. Et c'est pas terminé, à tout de suite.
Ici, chaque soir, toute l'actu musicale est dans Décibel. Émilie Mazoyer.
20h28, Décibel avec vous jusqu'à 21h. À venir, une découverte. Oh mon Dieu, j'ai craqué. Alors c'est un groupe qui existe depuis très longtemps. C'est un groupe de rap mexicain. Vous allez adorer ça, il s'appelle Molotov. On écoutera ça tout à l'heure, je vais vous les faire découvrir. Et puis on va jouer au Blind Test aussi. Ce soir, le thème du Blind Test, le cœur en chanson. Si vous avez envie de jouer avec nous, c'est maintenant qu'il faut appeler le standard d'ici. 0810 055 056, 0810 055 056. Oumaïma vous attend au standard. Et le cadeau du soir, c'est le nouvel album de Kyo. Il est très très réussi, il s'appelle Ultra Violent. Allez, appelez-nous pour jouer. Et puis nous, comme promis, on retourne chez Serge Lama. C'est assez dingue qu'il nous ait invités chez lui, mais en même temps, il y avait des moments de confidence, des moments d'intimité qui, je pense, pour lui, voilà, étaient peut-être plus faciles dans son environnement, avec son épouse à côté, et puis David Serrero, donc, qui a réalisé ce documentaire qui sort demain pour les 83 ans de Serge Lama. Un documentaire très émouvant, dont je suis ravie de parler avec David Serrero, le réalisateur, et avec Serge Lama. C'est un grand moment pour moi, hein. C'était la première fois que je rencontrais Serge Lama. Allez, on y retourne, parce que c'est important, et parce que ce film, vous allez avoir envie de le voir. Alors, il y a une exclue dans votre film, David. On voit pour la première fois le manuscrit d'une grande chanson, Je suis malade. Alors, à qui on dit merci?
Alors, on dit merci à Louana. On dit merci à Serge d'avoir écrit, mais on dit merci à Louana parce qu'effectivement, on a sorti ce manuscrit. C'est très intéressant, surtout qu'il n'y a pas de rayure.
Il n'y a pas une rature.
Il n'y a pas une rature. C'est, ça rejoint ce qu'il disait, cette spontanéité de l'écriture.
C'est... Mais alors, pour chanson...
Il y a certaines chansons, effectivement, que j'ai... Pas toutes, hein, mais que j'ai
écrit d'Angers, on peut dire, quasiment d'Angers, et Je suis malade en fait partie, D'aventure en aventure en fait partie, et il y en a comme ça une dizaine, une quinzaine, parce que j'avais la plume facile, et puis quand j'avais une idée, que j'étais pressé parce que j'avais quelque chose à faire, c'est souvent ça qui poussait, j'écrivais et je me posais pas de questions, donc j'écrivais bien. Quand je me pose des questions, j'écris plus lentement.
Ouais.
Les questions vous empêchent d'avancer. Alors, il vaut mieux trouver les réponses.
Alors, ceci dit, Je suis malade, c'est fou, parce qu'évidemment, tout le monde la connaît, on est content quand le moment du film arrive pour parler de Je suis malade. Oh, il y a votre chat qui est arrivé, Serge. Comment il s'appelle ?
Il s'appelle Esprit.
Esprit, salut. Qu'est-ce qu'il est beau ?
Mais on l'appelle Pichou. Hein,
ça, ah, ouais. c'est moins chic, mais c'est plus mignon.
Oui. Mon ex, ça m'appelait comme ça, Pichou.
Oui, Pichou.
Ah, oui.
Alors, comme
mais
Pichou.
Mais t'as combien d'ex, toi ?
Ah, avant toi, j'en avais pas.
Ça fait plaisir d'avoir votre complicité.
Je me permets juste de dire un petit truc, mais j'ai tellement d'amour pour ce monsieur. Mais j'aimerais tellement, vous avez posé une question exceptionnelle quand vous dites, est-ce que vous vous rendez compte ?
Ah, c'est Lara.
C'est
Lara, la question
mais,
de Lara Fabian.
Je crois qu'il ne se rend pas compte.
Non. Voyez.
Mais moi non plus, parce que sinon jamais je peux faire un film sur ce monsieur. Mais j'ai tellement d'amour pour ce monsieur, de respect et d'admiration pour ce monsieur que voilà, c'est juste extraordinaire quoi. Donc le chat là, je vois, il me fait un peu.
Vous avez
peur,
rendu un homme heureux, hein, Serge, en acceptant ce film. Hein.
Oui, mais j'en suis content. Mais il faut se rendre compte sans se rendre compte. C'est tout est là, parce que c'est toute la difficulté est d'être à la fois spontané et d'être à la fois travailleur, bosseur, et arriver à cet équilibre entre la spontanéité et l'exigence, soit pour l'écriture, soit pour chanter dans un disque, etc. Quand on fait des prises, c'est pour ça que mes disques sont moins bons que moi sur scène, parce que je chante dans un canevas, on est pris dans un prisme de on est obligé de chanter droit, on est obligé de chanter bon. Voyez, alors, je suis malade, j'ai fait une prise.
C'est donc
je suis malade, c'est vraiment écrit d'un coup et j'ai fait une prise dans le studio et elle a été bonne tout de suite.
Et elle a changé trois carrières, la vôtre, celle de Dalida, celle de Lara Fabian.
Exact.
Il y a de la magie là.
Oui, dans cette chanson, il y a sans doute une sorte de magie qui me dépasse. Hein. Ouais. Parce que moi, je n'ai fait que l'écrire.
Mais en tout cas, oui, la version studio, la version qu'on passe nous à la radio, par exemple, vous aimeriez qu'en fait, il existe une multitude de versions pour chaque fois que vous l'avez chantée en concert, plutôt qu'une version studio.
Ah non, elle est parce non. que je suis assez contente de la façon dont j'ai chanté Je suis malade en studio. J'étais avec les musiciens, il y avait tout le monde. J'ai balancé la purée, comme on dit dans notre jargon.
C'est d'ailleurs, t'enregistrer, excuse-moi Serge, quand t'enregistrais à l'époque comme ça, il y avait.
J'étais enfermé dans un petit.
Une cabine.
C'était avec l'orchestre en live ou c'était
en live,
d'abord
en
l'orchestre qui enregistrait et après tu faisais la voix.
Je suis malade, je vais faire musique en live,
en live.
Et moi
ah
en
oui.
live et la prise. Jean-Claude Petit était là, il a dit OK. Quand Jean-Claude Petit lève le doigt, c'est que c'est parce que c'est un.
Oui. Break.
Voilà. Alors.
Donc en fait, c'est une version.
Une
en
seule
concert,
version. Voilà.
Sans public, mais
fallait
en concert.
Il ne fallait pas perdre la bande. Je dis ça parce que ça arrive.
Vous voulez que je vous dise, moi non plus, il ne faut pas que je perde la bande, parce que là, je vois que c'est la fin de ce moment qu'on passe ensemble. Et si je rentre à la radio et que j'ai oublié la bande, eh ben, ça va mal se passer. Hein. Oh là là, je vous jure. J'avais juste une dernière question pour tous les deux, avec ce film donc, qui sort demain. Une pour vous, David. Le noir et blanc. Vous utilisez le noir et blanc d'une manière très spécifique. Serge parle pendant le film, c'est entrecoupé d'images, quelques archives, les interviews des gens que nous avons cités. Il est en noir et blanc et à la fin, bim, Technicolor, pour adresser un message au public. Comment vous avez eu cette idée et qu'est-ce que ça veut dire ?
Absolument. Il revient en noir et blanc à la fin.
Ouais.
Oui. En fait, moi, quand je fais vraiment un film, je me dis pas, je vais faire le film comme ça, et je vais faire comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est-à-dire, c'est toujours une des conversations qu'on a au début d'un film, c'est comment est-ce que tu vois le film? Je peux pas savoir tant que je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que si je le fais comme ça, c'est-à-dire que je peux le décrire. Si je peux le décrire, ça veut dire qu'il existe déjà et qu'il ressemble à ça et à ça et à ça. Comme, vous voyez, nous, les réponses qu'on vous donne, on ne sait pas à l'avance.
On sait pas,
donc,
ouais.
C'est ça qui est extraordinaire. Donc, j'ai fait ce qui était pour moi le mieux à ce moment-là. Surtout que Serge, la façon avec laquelle il nous raconte cette histoire, il nous plonge dans ce monde que j'appelle « Il était une fois ». Vous voyez, il nous amène vers cette nostalgie.
En traverse, oui, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, il nous amène vers ça. Et il a ce que j'appelle, et que j'essaye d'avoir, c'est l'élégance des gens bien élevés. Donc c'était pas, vous voyez, un film un peu vous voyez, avec des effets spéciaux qui viennent de partout, mais c'était un film qui lui ressemblait.
Star Wars.
Voilà, c'était pas Star Wars, voilà. Mais c'est vrai que le noir et blanc avec l'écriture comme ça un peu sobre lui ressemblait. Ouais. Et à la fin, c'était presque, il sortait un peu de cette, entre guillemets, bulle où il nous raconte cette histoire, où il s'exprime auprès du public d'aujourd'hui. Ce public d'hier, d'aujourd'hui, peut-être de demain, d'ailleurs, et de demain, excusez-moi. Et après, il revient pour nous.
D'accord.
Pour nous laisser partir, et on découvre d'ailleurs des petites choses.
Ah oui, il faut regarder vraiment jusqu'à la fin. Il y a plein de trucs écrits dans le générique. On sent que David, il voulait faire 12 épisodes.
Ah non, mais il y a de quoi faire 10 films sur sa vie.
En tout cas, celui qui sort demain, je vous le recommande. Merci. Serge, la dernière question, elle est pour vous. À la fin, vous vous adressez au public et vous dites: je vous remercie de penser à moi un peu, de temps en temps. J'ai trouvé ça très beau, très humble et très touchant. C'est vraiment comme ça que vous envisagez le rapport avec le public aujourd'hui. Vous pensez à eux un peu de temps en temps?
Oui, je pense à eux un peu de temps en temps. Et c'est ce que j'ai de plus chaud en moi, dans une période où on est plus âgé, plus... tout est derrière, je ne ferai plus de scène parce que je ne peux plus. Et donc, oui, c'est ce que je ressens profondément. Le public m'apporte encore, par écho, quelque chose de très fort.
Merci beaucoup.
Un écho d'amour.
C'est beau comme tout. Merci beaucoup. Le film sort demain, sobrement intitulé, hein, David, on n'a pas fait Star Wars.
Tout est dans le titre, voilà. Serge Lama, tout
Serge
est dedans.
Lama.
Il n'y a rien à rajouter.
À partir de demain.
Mais je l'aurais appelé, si je devais trouver un titre vraiment autre chose que Serge Lama, le film, je l'aurais appelé La Force du Destin.
Ah, c'est beau aussi. C'est un opéra en plus, je crois.
La Forza del Destino.
Oui, hein.
Et je trouvais que voilà, La Force du Destin... Le destin et la force, c'est deux choses qui lui vont très bien.
David Serrero, réalisateur de ce film.
On sent que tu le regrettes d'ailleurs.
Peut encore changer, non?
On va changer, on peut refaire l'interview.
Non, mais La Force du Destin, on sent que tu le regrettes de ne pas l'avoir mis. C'était une bonne idée, Serge Lama, La Force du Destin, parce que c'est un peu ça.
Ouais.
C'est même ça.
C'est complètement ça.
Oui, c'est complètement ça.
Merci beaucoup, Serge Lama.
Merci à vous.
Merci.
Je ne rêve plus. Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. On ne sait jamais où, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux.
qu'ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade.
1973, je suis malade, Serge Lama. J'espère que vous avez pris plaisir à entendre un Serge Lama. Super content de la sortie du film demain. Pas avare d'anecdotes, ça c'est sûr, il y en a plein d'autres à voir dans le documentaire. Donc une sortie événementielle, graduelle au cinéma et puis bientôt, on l'espère, sur vos petits écrans. Le film était réalisé par David Serrero qui était avec nous, vous l'avez entendu pendant cette interview. Puis merci à Luana Lama, son épouse, qui nous accueillit chez elle. Déjà, c'était sympa, parce qu'une équipe de radio qui débarque chez toi un soir, crois-moi, on est quand même affreux, sale et méchant. Et puis voilà, elle a été là avec nous, à côté, et c'était vraiment un joli moment.
Ici, tous les soirs à 20h, c'est Décibel.
Il est 20h43, c'est l'heure de jouer au Blind Test maintenant. Et avec les chansons d'amour de Serge Lama, forcément, on avait envie de jouer au Blind Test avec des chansons qui parlent du cœur. Pour jouer avec nous, il y a Marilyn. Bonsoir Marilyn.
Bonsoir Amélie.
Bienvenue, comment ça va?
Merci, ça va bien.
Ah bon, le cœur aussi, ça nous fait une petite répétition pour la Saint-Valentin qui arrive samedi. Je dis pour les retardataires.
Oui, samedi. Oui, oui.
Voilà, samedi. Attention, vous plantez pas. Surtout si on vous dit « Non, mais c'est une fête commerciale, je veux rien. » Bouquet de fleurs, croyez-moi. La base. Marilyn, il y a aussi Mathieu pour jouer avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, Amélie.
Comment ça va, Mathieu?
Ça va très bien.
Bon, tous les deux, je vous offre l'album de Kyo. Il est très réussi, le nouveau Kyo. Il s'appelle Ultra Violent. Plus de 20 ans après les premiers succès, Le Chemin, etc. Ils ont réussi à se renouveler. Je pense que ça va vous plaire. Vous ne l'avez pas déjà?
Non, je ne l'ai pas encore.
Eh ben voilà, considérez que vous l'avez. On vous l'envoie dans les plus brefs délais. Oui, parce qu'au Blind Test de Décibel, quand on joue, on gagne. Quoi qu'il arrive, ici est une radio qui aime prendre soin de ses auditrices et de ses auditeurs et les gâter. Donc, Marilyn et Mathieu, maintenant que vous avez gagné l'album, vous pouvez jouer au Blind Test. Je vais vous passer des chansons. Il faut retrouver le plus rapidement possible les interprètes de ces chansons. Et n'oubliez pas, donc, elles parlent toutes du cœur. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Marilyn,
oui,
Mathieu est prêt aussi. Voici une première chanson en forme de cœur, dites-moi, qui chante ça?
Laurent vous le dit.
Oui, bravo Mathieu.
J'ai le cœur grenadier.
Laurent Voulzy, qui était notre invité il y a quelques semaines dans Décibels, qui nous a annoncé son projet fou, monter un site internet collaboratif dans lequel les gens partageraient leurs rêves, histoire de savoir si la même nuit, vous avez fait le même rêve qu'un gars qui habite à Berlin ou qu'une fille à New York. J'adore cette idée des rêves de Laurent Voulzy. Il a promis qu'il reviendrait dans Décibels pour nous raconter l'avancée de ce projet. Puis sinon, il a aussi projet de nouvel album. Et c'est moins surprenant qu'un site internet sur les rêves. Il est très surprenant de toute façon, notre Laurent Voulzy. Premier point pour Mathieu. Et nous continuons, Marilyn Mathieu, deuxième chanson de cœur. On cherche l'interprète.
Mon cœur, mon amour, mon cœur.
C'est une chanteuse qui a sorti cette chanson, je pense, il y a une vingtaine d'années. Son nom de scène, c'est juste un prénom. Ça vous dit rien? C'est un prénom qui rime avec Pastis.
Avec qui?
Avec Pastis. Ou Panis. Un prénom féminin qui commence par A.
Anaïs?
Oui! Je me rends compte que donner le nom d'un alcool sur la radio publique à 20h47, alors bon, on est loin après l'apéro, mais enfin quand même, c'est pas terrible. J'aurais mieux fait de vous dire que ça rimait avec pénis. Mais voilà, c'est Pastis qui est venu en premier, ça dit des choses de ma vie, sans doute. C'était Anaïs, bravo Mathieu. Mon cœur, mon amour. Est-ce qu'on s'en fait une petite dernière?
Oui.
Ah bah oui.
Allez, c'est parti. Je veux pas vous dire avec quoi ça rime, ça.
Julien Clerc.
Oui, bravo. Cœur de rocker, Julien Clerc, mon cœur, mon amour d'Anaïs et le cœur grenadine de Laurent Voulzy. Voilà un blind test pour vous mettre en condition pour la Saint-Valentin qui arrive samedi. Et Marilyn et Mathieu, merci d'avoir joué avec nous.
Merci, bonne soirée.
Merci à tous les deux, je vous envoie l'album de Kyo. La Saint-Valentin, c'est samedi, vendredi, c'est les victoires de la musique. On sera en direct des coulisses des victoires de la musique. Vous savez bien que votre radio ici est la meilleure amie des artistes et notamment d'un grand nombre d'artistes nommés vendredi soir aux victoires. Ils seront avec nous donc en direct dans les coulisses entre 19h et 21h. On croisera Elena, Marguerite, Suzanne. On espère attraper Orelsan. Ça dépend à quelle heure il arrive. Mais bon, comme il est nommé dans la catégorie artiste masculin et album de l'année, ça peut être chouette. Et puis, il y a notre copine Vanessa, Vanessa Paradis, qui nous avait offert un décibel génial, nommé dans la jolie catégorie artiste féminine de l'année. Vanessa Paradis a une chanson cœur. On l'écoute, les épines du cœur.
chaleur de tes baisers.
La voix de velours de Vanessa Paradis sur son nouvel album Le Retour des Beaux Jours. La tournée de Vanessa Paradis commencera le 26 mars à l'Arena du Pays d'Aix.
Ici avec Émilie Mazoyer, c'est Décibel.
Allez, c'est l'heure de la découverte. Alors, je découvre en 2026 un groupe qui existe depuis 1995. Je me dis, je suis peut-être pas la seule, donc je partage avec vous. Il s'agit d'un groupe de rock et rap mexicain qui s'appelle Molotov. Et je les ai découverts parce que j'adore les burritos. Et donc, je suis allée me taper un gros burrito toute seule comme une égoïste un midi. Et le cuistot avait mis la radio bien fort dans sa cuisine. Et j'ai entendu ça. Et j'ai craqué, Frijolero, ça s'appelle, et j'ai demandé, qu'est pas ça, à la radio là? Et il m'a dit, c'est Molotov, madame. C'est un groupe de chez moi, un groupe du Mexique. Excellent, donc. Molotov, et cette chanson, elle date de 2003, sur leur album Dance and Dance Denso. Voici Molotov, en espagnol, et un peu in English.
Yo, yes, toy, yes, tell a madre. De que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. No que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why'd you look down the way your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto!
Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero.
Coup de cœur du soir pour le groupe mexicain Molotov.
Ici à 20h, toute l'actu musicale est dans Décibel.
C'est l'heure de la dernière chanson de l'émission. Chanson anniversaire aujourd'hui pour Maxime Le Forestier qui fête ses 77 ans. Mille bisous Maxime. Merci pour la musique et pour les bonnes questions posées en 1988 mais toujours d'actualité en 2026. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard ?
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part,
Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? 1988-2026, on n'a toujours pas la réponse, mais on a Maxime Le Forestier. Bon anniversaire à lui. Merci à vous d'avoir écouté Décibel et merci à l'équipe Iris Guitoni, Elorie Roussillon, Nicolas Bonzon ou Maïma Abaz et Franck Mollier.